permet de rappeler poliment que je me lavais jamais les dents, que je me rasais dans la baignoire et que je te la laissais toute noire. Il y a un truc qu'on sait plus très bien, on se faisait plus jamais rien, on dormait tourné dans son coin depuis 4 ou 5 ans au moins. Et on se demande pourquoi je me casse sans se demander qui ça tracasse. Je vois un peu mieux les choses à faire, puis je prends un bol d'air. Et quand je me promène dans la rue, je vois la vérité toute nue. C'est ma vie, j'en ai qu'une, et pour pas que je la perde, il vaudrait mieux pas que je m'emmerde. C'est arrivé, je sais plus comment, tu me disais plus rien de tes amants. Peut-être un type me plaisait pas, tu croyais que j'écoutais pas. D'un côté tu y pouvais rien, moi je te chantais plus jamais rien. Et je te disais plus rien de ma vie, et je savais plus rien de tes envies. Et on se demande pourquoi je me casse, c'est juste pour sauver nos carcasses. Je suis avec une gonzesse sympa qui voit que je suis là. Et quand tu te promènes dans la rue, regarde la vérité toute nue. C'est ta vie, t'en as qu'une, et pour pas que tu la perdes, il vaudrait mieux pas que tu t'emmerdes. Facilement que tu voulais me virer depuis longtemps, vu que j'étais pas tellement malin, moitié fauché, moitié radin. Y a un truc qu'on sait plus très bien, tu disais que je servais à rien, que je foutais du bordel partout, j'étais le roi des mots. Et on se demande pourquoi je me casse, me prends pour capitaine fracasse. J'ai la quarantaine rugissante, mais pas bien méchante. Et quand on se promène dans la rue, on voit la vérité toute nue. C'est la vie, y'en a qu'une, et pour pas qu'on la perde, il vaudrait mieux pas qu'on s'emmerde. Et quand tu te promènes dans la rue, regarde la vérité toute nue. C'est ta vie, t'en as qu'une, et pour pas que tu la perdes, il vaudrait mieux pas que tu t'emmerdes. Et quand je me promène dans la rue, je vois la vérité toute nue. C'est ma vie, j'en ai qu'une, et pour pas que je la perde, il vaudrait mieux pas que je m'emmerde.
Alligator 427, aux ailes de cachemire safran, je grille ma dernière cigarette. Je vous attends sur cette autoroute hystérique qui nous conduit chez les mutants. J'ai troqué mon cœur contre une trique. Je vous attends. C'est que vous avez la beauté destructive et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427, à la queue de zinc et de sang, je me tape une petite reniflette. Je vous attends. Dans cet étrange carnaval, on a vendu l'Homo sapiens pour racheter du Néandertal. Je vous attends. Elle est manufacture en beau, se recycler, il n'y aura jamais assez de morphine pour tout le monde. Surtout qu'à ce qu'on dit, vous aimez faire durer. Moi je vous dis bravo et vive la bande. Alligator 427, au long regard phosphorescent, je mouche mon nez, remonte mes chaussettes.
Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Un cœur rouge, il y aurait d'un gain, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, s'il les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes nombreux dans cette émission. François, bonjour.
Salut.
Kandong.
Salut Marima.
Nous avons la stagiaire qui officie actuellement à Publico, 145 rue Amelot, Feriel. Bonjour. Bonjour. Nous avons aux manettes notre cher et adoré Jean-Michel que nous avons de retour. Et nous allons parler avec un invité qui a eu l'extrême amabilité de nous envoyer un ouvrage magnifique, d'exception, en service presse. Et je remercie Christophe et Laurent qui me l'ont donné à lire. Il a pour titre « Au bidonville de la folie ». L'auteur, c'est Monique Hervault, décédée malheureusement le 20 mars 2023, dernier. Et nous recevons son éditeur, qui a présenté les notes, Jean-Louis Mohand, Paul. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour.
Bien. Alors, qui était Monique Hervaux ?
Alors, j'ai rencontré Monique Hervaux en 2014-2015, donc elle était déjà bien âgée. Elle vivait dans un camping, une petite caravane toute modeste à Saint-Hilaire dans l'Aube. Je l'ai contactée car je cherchais des renseignements sur Nanterre durant la guerre d'Algérie, la fin des années 50, car mes parents vivaient assez près de ce qui était le bidonville de la Folie. L'ayant contactée ainsi, elle m'a donné quelques renseignements, indiqué où elle avait rangé ses archives, liées à l'abbaye d'EIC et à Nanterre, et les archives photographiques. Et à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, ce sont des plans, des notes, des documents administratifs de la période où elle a vécu au bidonville, à partir de 59 et jusqu'à la dissolution en 1972, évidemment. Mmh. Voilà. Et donc, lors de ces entretiens, puisque j'étais allé la voir cherchant des renseignements à titre personnel, lors de ces entretiens, elle m'a confié qu'elle avait un gigantesque fichier où elle avait retranscrit les notes qu'elle avait prises durant son expérience dans le bidonville, dans des malles, dans des cartons, des petits bouts de papier par-ci par-là, qu'elle a recollationné ensuite très patiemment, visiblement pendant des années. C'était un fichier gigantesque. Et elle me demandait si je pouvais l'imprimer, le photocopier, etc. Bon, comme il se trouve que je suis, correcteur, éditeur, metteur en page, etc.
On va y revenir, on va te présenter voilà. Ensuite.
Je lui ai proposé de le réaliser, mais comme livre, et non pas en simple reprographe. Et à partir de ce moment-là, elle m'a confié son fichier source, et donc j'ai transcodé, travaillé, voilà. Visuellement. Et ça a donné le livre « Notes pour servir à l'histoire des bidonvilles ». Voilà. On verra une petite allusion dans le titre aux « Notes pour servir à l'histoire de la commune » qui ont paru, attendez, il y a déjà quelques années, mais c'est un livre gigantesque et qui n'a pas vraiment rencontré son public. C'est paru en 2016. Mmh. C'est un livre, on peut penser, pour spécialistes, sociologues, chercheurs, etc. Mais je crois qu'ils ne s'en sont pas rendus compte.
François, tu voulais peut-être poser une question.
Je ne sais pas si c'était prévu que tu le fasses, mais pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance, comme moi, de connaître des visus le bidonville de Nanterre, est-ce que tu pourrais expliquer où ça se passait ?
C'est prévu. On est dans la présentation de Madame Monique Hervaux, parce qu'elle, comme elle a disparu, c'est elle que je voulais inviter. Donc j'ai contacté les éditions de Jean-Paul, les éditions Ressouvenance. Ils ont un site internet, www.ressouvenance.fr, et c'est là où qu'il m'a appris son décès. Donc je suis allée sur internet pour avoir une biographie d'elle. Elle a une page Wikipédia très bien fournie, où on découvre qu'elle est née le 5 janvier 29 à Paris, qu'elle est bien décédée, hélas, pour nous, le 20 mars 23 à Nanterre, et qu'elle a participé à la fondation du GISTI. Pour tous ceux qui s'occupent de soutien aux sans-papiers, aux demandeurs d'asile, le GISTI, c'est pas n'importe quoi, c'est même très important. Et surtout, elle a manifesté le 17 octobre 61, en pleine guerre d'Algérie. Donc, Monique.
Peut-être sur ce plan-là, on peut préciser. Elle y avait été invitée par les militants du FLN présents sur le bidonville de la Folie. Alors que pour ces manifestations, il avait été demandé à très peu de Français de participer. Il y avait l'intention de former une manifestation spécifique d'Algériens.
Mais comme elle était très importante pour la Folie, ça a été un honneur pour elle de participer à cette marche tragique.
Alors, sur ce plan-là, sur cette période, Nanterre en guerre d'Algérie, les notes qu'elle avait pu prendre, les témoignages qu'elle a reconstitués ensuite, ont été publiés dans un livre distinct.
Et, oui.
Et les notes que nous avons éditées portent sur la période ultérieure, après la guerre d'Algérie.
Tout à fait. Alors, les ouvrages de Monique Hervault sont Bidonville, l'enlisement, aux collections Cahiers libres de Maspero de 71, Chronique du bidonville Nanterre en guerre d'Algérie 1959-1962, avec une préface de François Maspero, 2012, Actes Sud. Elle a été rééditée sous le titre Nanterre en guerre d'Algérie, Chronique du bidonville 1959-1962, chez Actes Sud. Alors ensuite, il y a la BD qu'elle a faite avec Laurent Maffre, Demain, Demain, Nanterre, Bidonville de la Folie. Excellente BD que l'on peut trouver à Publico, 145 rue d'Amelot. Je rappelle les trois métros pour aller à notre librairie chérie, Oberkampf, Fille du Calvaire et République. Et donc, cet ouvrage que j'ai entre les mains, qui est la recension de ces notes choisies et présentées par notre invité d'aujourd'hui. Alors, que dire d'autre de Monique Hervault ?
Elle nous a dit que à la fin de la guerre, elle a rencontré personnes, des rescapés des camps de concentration. Et elle a assisté certains à ce moment-là. Elle nous disait que sa vie avait alors basculé. Auparavant, elle était étudiante aux Beaux-Arts en verrerie d'art. Et donc, quand on a vu cela, nous avait-elle dit, on ne peut pas vivre comme avant. Et je pense qu'elle a consacré ensuite toute sa vie. Alors, je ne connais pas bien toute sa vie. Elle nous a dit aussi qu'elle avait voyagé en Afrique, notamment. Et donc, sans doute des périodes après le bidonville, forcément. D'autres moments, elle a travaillé assez modestement dans des fermes en Savoie. Elle nous avait dit qu'elle aimait beaucoup la Savoie, qu'elle y serait restée sur la fin de ses jours si la proximité de Paris et de certains amis ne l'avait conduite à trouver cette petite caravane. Elle était vraiment, j'imagine, ça devait être un confort extraordinaire après une baraque de bidonville.
Ah oui.
Elle s'était vouée aux habitats très modestes.
Très précaires même. Très précaires. Alors, c'est un article de presse qui l'informe de l'existence du bidonville de la Folie et qui fait qu'elle vient à la Folie.
Là, ceci, elle ne nous a pas...
Si, c'est marqué dans sa fiche Wikipédia, que j'ai consultée.
Oui, mais enfin, c'est pas elle qui l'a écrite.
Non.
Non, mais il se peut qu'elle soit formée par des amis qui l'ont...
Voilà, tout à fait. Et donc, j'aimerais, si c'est possible, que l'on en vienne... Avant, en deuxième partie, d'expliquer le bidonville de la Folie en détail, j'aimerais que tu expliques ta démarche éditoriale. Parce que ce sont des notes choisies et présentées par toi.
Oui.
Voilà. Donc, il faudrait que tu te présentes à nos auditeurs et que, oui, en quelques mots, qu'est-ce qui... Éditeur de ressouvenances .fr, un site internet où il y a le catalogue, et ton catalogue est ta ligne éditoriale. Et ton catalogue, il est représentatif de tes choix. C'est pas anodin que de...
Certes non. Bon, ben, bien sûr, critique sociale et solidarité politique avec les damnés de la Terre, si on peut dire.
Oui.
L'espoir de retransmettre et que cela se perpétue. Bien. Mais je souhaiterais répondre plutôt comment ce livre aussi, Au bidonville de la folie, s'est constitué. C'est avec Monique Hervault, après la publication des notes pour servir, c'est un livre de pas loin de 400 pages en tout petit corps sur deux colonnes grand format, et ce n'est pas forcément un livre immédiatement communicable, accessible pour des personnes que qu'on estimait être concernés par ces témoignages. Voilà. Et à partir de cela, il y avait eu l'idée, ces dernières années, de constituer un choix pour les thèmes principaux et de façon à constituer un petit livre, je disais, plus léger. Alors effectivement, ce n'est pas un livre léger, c'est un livre tragique, si l'on veut.
Mais, il est très tragique, mais il est dense.
Plus limité, plus, voilà, emblématique en même temps. Bon, en fait, le travail sur ce plan-là a été simplifié parce que les notes, en voyant, évoquant assez fréquemment des mêmes aspects, des moments analogues, j'avais constitué les notes pour servir à l'histoire des bidonvilles avec un recueil de thèmes ponctuels qui se retrouvaient. On avait l'eau, le froid, les incendies, la corruption, la police, la brigade Z. Voilà. Et à partir de ce moment-là, quand Monique Hervaux m'a rappelé à l'automne, entre 21, et ce projet est revenu sur le métier, si l'on veut, et c'était vraiment ça lui parlait bien, quoi. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai recollationné ce qui pouvait être le plus expressif, de façon un peu aléatoire, parce qu'en fait, d'autres aspects, d'autres notes aussi. Donc, pour recueillir ces notes. Et là, elles sont rangées par thème.
J'allais les lire, justement. Oui. Alors, il y a présentation, premier pas, parcours de l'exil, chaque jour, scène du racisme, enfance, administré, policé et quelques remarques.
Et les quelques remarques finales sont des notes ou des touches que trouvées à tel ou tel endroit des textes de Monique Hervaux. Voilà.
Alors, au bidonville de la folie, François a connu le bidonville.
Oui, mais moi, j'avais pas le courage militant de Monique Hervaux. Non, mais c'est vrai que j'y suis allé deux fois, dont une fois en voiture, ce qui était un peu périlleux parce qu'il y avait beaucoup de boue et que j'ai failli m'enliser plusieurs fois. Et c'était à la demande d'un habitant du bidonville qui m'avait demandé de charger des batteries parce qu'il n'y avait pas de courant électrique dans le bidonville. Donc je chargeais les batteries, je les lui apportais. Voilà, je l'ai fait deux fois. Et après, il a disparu, je ne l'ai plus jamais revu.
Alors, vous disiez, on s'enlise. Effectivement, il y a d'assez nombreux témoignages où les habitants du bidonville s'enfoncent au-delà de la
cheville. C'était une boue noirâtre et nauséabonde. Je passe sur les détails de sa composition. Et c'était vraiment impraticable quand il pleuvait, quoi. Ouais.
Et elle était constituée, vous disiez, nauséabonde, elle était constituée en partie des déchets, des détritus, des poubelles que des services extérieurs ou des habitants extérieurs au bidonville apportaient et jetaient dans des sortes de barrières gigantesques qui enfermaient littéralement le bidonville. Et quant à s'enliser, il y a également évoqué le problème que, à la fin, les docteurs, ou même assez vite, les docteurs ne venaient plus parce que, un, ils se perdaient dans le circuit, et deux, ils s'enlisaient, etc. Voilà.
Et le bidonville, à l'époque que j'ai connu, quand j'étais tout petit, commençait pas à la folie, il commençait presque à boulevard de la Mission Marchand, à côté de la Défense. Il commençait beaucoup plus proche de la place de la Défense que naît la Folie. La Folie, c'est quand même Nanterre. C'est un quartier de Nanterre, la Folie. Mm-hmm. C'est là qu'il y a eu les premiers bâtiments de la fac de Nanterre. C'était à la Folie. Mm-hmm. Et c'est quand même très éloigné de là où a commencé le bidonville au début de l'émigration algérienne importante qui avait été demandé d'ailleurs par les industriels et les dirigeants du pays pour avoir une main-d'œuvre peu rouspéteuse au niveau syndical et bon marché.
Bon, et en outre, avoir une main-d'œuvre, parce que après la Seconde Guerre mondiale, les travaux de reconstruction, puis ensuite suscités par ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, nécessitaient une main-d'œuvre colossale que les Français n'arrivaient pas à fournir.
Bien. Eh bien, comme on en est au stade de présenter la folie, je voudrais qu'on en vienne à la page 15 du livre, où elle parle de la campagne de l'abbé Pierre.
56.
Et elle dit qu'il a mis l'accent sur la population française et sur les individus en marge de la société, dénonçant la mort d'un bébé français avec obsèques à grand renfort de discours officiels, jamais plus là. Et voilà la conclusion de la page 15. Nous ne retenons que les morts que l'on veut bien, deux points. Jamais les quatre Algériens morts de froid le 21 février 56 en Seine-et-Oise à Jusier, ni l'enfant algérien également mort de froid le 14 du même mois à Miribel, dans l'Ain. Donc déjà, tout est dit. Et quand on saute dans le deuxième chapitre, parcours d'exil, là, on est vraiment dans la folie. Et je voudrais qu'on revienne sur une phrase que dit une personne que rappelle Monique Hervault. Il dit « J'habitais la folie m'habite toujours 30 ans plus tard ».
Alors, il y a une contradiction que Monique Hervault évoque assez fréquemment, ou ce qui paraît comme une contradiction, c'est que les familles nombreuses logées dans des espaces terriblement exigus, qui recevaient le chaud, le froid, la pluie, le gel, la boue, les rats, etc., en même temps, quand ils seront relogés, souvent en cité de transit et non pas d'abord en HLM, auront regret pour la vie communautaire.
Et l'entraide.
L'entraide, qu'ils connaissaient, qu'ils avaient reconstitué, ou qui poursuivaient plutôt leur ancienne vie, leur ancienne socialité en Algérie. On parle de l'Algérie parce qu'effectivement, la population de ce bidonville était majoritairement algérienne.
Alors oui, elle était originaire, elle l'a noté, Kenchela, dans les Aurès, ouais. En majorité. Il y a eu à peu près 10 000 habitants au bidonville de la Folie. Donc, alors, page 19, on a la composition exacte des habitants. Alors, on a les Algériens, un quart viennent des Aurès, avec les monts du Haudna. Puis par la suite, d'El Oued. Après l'indépendance, plus du tout d'arrivée des Aurès et des Bihans, sauf peut-être quelques de Biskra. Les Marocains, la majorité tout au long de la vallée du Dra, ayant pour la plupart transité par les bidonvilles de Casablanca, d'Agadir, suite au tremblement de terre. Rares ceux de la vallée du Dadès, quelques Chleux, mais beaucoup de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et les régions d'origine, c'est le camp du Maréchal, Abo, Mirabeau, Sizibou, Nab, Aussonvilliers. Je suis désolée si j'écorche les noms. Et un peu plus loin, Maillot, Porbou, Aridji, Melouza, Mamora, Bendaoud, Kessabia, et plus à l'ouest, Tababor. Et statistiques... Alors, et ensuite, il y avait les autres nationalités, jusqu'au portugais, qui était beaucoup moins représenté.
Il y avait des Yougoslaves aussi.
Toutes les nationalités étaient dans ce bidonville.
Des gens du voyage, des gitans.
Oui.
Et des fois, je ne dis pas ça parce que je parle des gitans, mais des fois, la vie devait être tellement dure, et j'étais témoin d'une scène de folie. Un habitant... un torse nu s'est mis à hurler et à hurler de, je sais pas, de désespoir ou de misère, je ne sais pas. Et il était tellement énervé qu'il a donné des coups de poing sur une caravane. Et il a réussi, en se blessant grièvement, il a réussi à passer à travers la ferraille de la caravane, tellement il était hors de lui. Voilà. C'est vrai, d'accord. C'est un souvenir qui m'a assez marqué. Ouais.
D'accord. Alors, la réalité du bidonville, c'est quelque chose dont Monique Hervault a réussi dans ses documents, et je trouve que Jean-Paul, tu as réussi, grâce à tes notes, ça saute aux yeux et ça prend aux tripes. On se dit, mais comment les gens ont pu supporter ça pendant si longtemps ?
Alors, il y a un élément, une relation, c'est que l'habitat originel de populations qui migraient était extrêmement modeste et précaire. D'une part dans les montagnes, puisque les plus de la moitié des habitants étaient d'anciens montagnards, bon, habitaient les petites maisons d'une pièce et où allaient leurs familles nombreuses, où vivaient leurs familles nombreuses. D'autres passaient, quand les crises économiques consécutives à la colonisation et l'accroissement démographique ont poussé ces populations vers les villes portuaires, où était le travail de manutention pour l'exportation vers la France de tous les biens. Hein. Là, ils vivaient en bidonville assez bien organisé, où il y avait des rues, où chacun avait son adresse, etc. À partir du moment où ils viennent, il n'apparaît pas honteux, ni irrationnel, ni incroyable de vivre de nouveau dans une petite maison. Dans quelque chose de bâti.
Ils ont été conditionnés avant.
Voilà. On peut dire qu'ils étaient. Ça restait dans une sphère modeste. Ce qui est particulier au bidonville en France, c'est que, primo, le climat s'y prête beaucoup moins.
Tout à fait.
Et d'autre part, l'environnement administratif et policier précarise et aggrave considérablement les incidences, la mauvaise santé, la pauvreté, la honte apparente d'être dans une condition déplorable.
Ça, on va y revenir. Donc, on va peut-être faire une première pause. Voilà, tu as choisi la musique de Slimane.
Slimane Azem. Oui.
Voilà. Donc, si tu peux en parler de ce chanteur.
C'est un chanteur kabyle qui a vécu en exil en France, qui n'est jamais retourné en Algérie après l'indépendance. Il était très mal vu. On le considère comme le Brassens kabyle. Et ses chansons sont assez fréquemment inspirées de poèmes traditionnels, notamment de Morand Simorand, poète du tout début du XXe siècle. Et l'un de ses textes, il y avait un beau jardin, les fruits poussaient merveilleusement, etc. Les sauterelles sont passées en tout prix, je n'ai plus rien.
Bon. Et les sauterelles, c'est les Français.
Et cette chanson a été interdite à la radio pendant dans l'Algérie française. Voilà. Ce chanteur a été extrêmement populaire et écouté parmi l'immigration algérienne dans les années 50-60.
Voilà. Jean-Mi, Slimane, s'il te plaît. Merci.
Cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. pour moi ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Seul je me parle à moi-même, j'ai failli à mon devoir, j'ai mené une vie de bohème et vécu dans le cauchemar. Quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Jean-Louis. Moi. Je vais y arriver. Morande. Alors Jean-Louis, donc on vient d'écouter Slimane. Voilà, le titre exact c'est
Algérie mon beau pays.
Algérie mon beau pays. Voilà. Alors revenons au bidonville de la folie, qui est le livre de Monique Hervault dont tu as pris des notes, tu as fait des notes et que tu es présente. Alors je rappelle qu'il est aux éditions ressouvenance.fr dont tu es l'éditeur. Distribué par Hachette, et il vaut la modique somme de 18 euros. Bien. Alors, dans un bidonville, on peut s'attendre à ce que l'administration vous ait abandonné. Alors, l'administration se présente sous des formes ubuesques. Par exemple, la direction des impôts. À un moment donné, il y a une boutique...
À qui il est demandé une patente ?
À qui il est demandé une patente ? Alors que la boutique, elle est dans un bidonville et que il fait le propriétaire de cette boutique, il le fait après son travail légal. Il le fait pour aider le bidonville en fait. Et donc la direction des impôts débarque et lui fait signer toutes sortes de papiers pour pouvoir le prélever. C'est inouï.
Et puis à partir de ce moment-là, sa boutique ne sera pas aux normes. Et puis,
voilà, et on pourra à chaque fois venir lui poster des amendes parce qu'il n'est pas dans les clous. Bon, mais surtout, on peut revenir sur un point essentiel, l'eau. Monique Hervault insiste sur le fait que l'eau, on n'en a jamais assez, on l'économise comme si c'était un parfum, du parfum. C'est-à-dire que l'administration s'est arrangée pour ne pas donner plus d'un point d'eau dans le bidonville. Donc la corvée de l'eau est devenue une sorte insurmontable pour les femmes et les enfants qui sont chargés de cette corvée.
Ils y sont chargés parce que les hommes sont au travail, hein, 8 heures dans la journée au bas mot, plus des heures de transport. Et donc, ce sont effectivement les enfants qui, avant ou après l'école, portent des bidons en aluminium ou un peu de laitier de l'époque pour aller à l'unique point d'eau où il y a une file d'attente colossale. Alors, sur des petites charrettes, ils mettent un ou deux bidons et puis parfois, ils n'arrivent plus à les tirer ni à les pousser quand c'est plein.
D'autres, oui, parce qu'il y a la boue. Ça, François l'a bien évoqué.
D'autres fois, la fontaine, le point d'eau est gelé, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à attendre un éventuel dégel dans la journée. Et cette eau, elle sert à la toilette pour les enfants, pour les parents bien sûr, le lavage du linge, car un point très important est le très grand souci de dignité et même de conformisme vestimentaire des gens qui vont qui sortent du bidonville. Et alors il faut que les chaussures n'aient pas de taches de boue, il faut que ni le bas de pantalon, etc. Et on n'imagine pas le travail colossal que c'est. Tout ça à la main, ou peut-être avec ce qu'on appelait autrefois les lessiveuses, c'est-à-dire une sorte de boule de métal qu'on tournait manuellement pour brasser le linge. Alors, avec presque pas d'eau. Voilà. Et donc, sur ce plan-là, c'est parmi les scènes de chaque jour. Pour, alors, jusqu'à 10 000 personnes, peut-être un peu plus, mais à la fin, au fur et à mesure que les travailleurs ont fait venir leur famille, alors qu'au tout début, par exemple en 61 encore, le bidonville a deux secteurs, le secteur des ouvriers, des travailleurs célibataires qui pouvaient vivre à plusieurs dans une seule cabane, et d'autre part, le quartier des familles. Et c'est le quartier des familles qui progressivement s'est étendu. Voilà. Les autres aspects, effectivement, pas d'électricité, vous disiez, et donc on s'éclaire à la bougie, mais dans des tout petits espaces, il y a les risques d'incendie, et les incendies, ça arrivait assez fréquemment. Le même problème, autre problème, c'est pour se chauffer. Alors, vu les climats, à l'époque, les hivers étaient plus rudes qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, on ne vivrait pas dans une cabane sans rien. Pour se chauffer, ce sont des petits poêles en charbon dont la cheminée va se caler dans le toit en bois. Et là aussi, pour peu que ça commence à surchauffer, des risques d'incendie importants. Et pendant ces incendies, il y a une scène précise. Monique Herbeau mentionne qu'une patronne de café appelait les pompiers, puis alors que était sympathique, mais beaucoup de consommateurs
disaient non, laisse griller, ça en fera de moi. C'est inouï. Les commentaires des consommateurs sont édifiants. Et cette femme, régulièrement, elle a appelé les pompiers chaque fois que le bidonville a pris feu. Elle a été bénévole quelque part pour le bidonville, parce qu'elle avait le téléphone, elle avait le café, elle avait accès au confort, et elle avait comme préoccupation que le bidonville ne prenne pas feu, avec, comme elle disait, avec femmes et enfants. Il y avait des femmes, des enfants et des vieilles personnes.
Alors, il en est arrivé, évidemment, des incendies, et à ce moment-là, impossible d'arriver, d'approcher les lieux qui sont coincés dans des cheminements, de baraques enchevêtrées, etc.
Les pompiers, vous pouvez pas accéder, tout simplement.
Voilà. L'autre aspect, ce sont les rats.
Oui, elle dit bien, Monique Herveau, qu'elle a le sentiment que les gens vivent dans l'espace des rats. Que c'est les rats, ils vivent chez les rats. Tellement les rats sont omniprésents et ils mordent les enfants comme si c'était chez eux et que finalement les humains étaient à chasser, alors que c'est les rats qu'on devait chasser.
Alors les rats, ils étaient visiblement attirés par toutes ces poubelles déversées aux alentours, outre les conditions d'hygiène forcément limitées du mode de vie sur place. Bon, maintenant, on constate que ce qu'on perçoit, c'est que les parents et les mères surtout passent leur temps à nettoyer, ils le disent d'ailleurs, on passe le temps à nettoyer, c'est déjà sale, à sécher, c'est déjà mouillé, etc. Les toits fuient, alors ce sont souvent a priori des plaques de tôle, des planches qui sont plus plus ou moins rejointoyé avec des bouts de goudron, et puis ça fuit quand même. Il y a des témoignages, des scènes, des moments où l'eau tombe sur les lits pendant la nuit et c'est tout trempé au matin.
Mais surtout, il y a un docteur qui avait fait des statistiques dans la partie du bidonville, et dit que la partie des Italiens qui ont les égouts et le frigidaire, il y avait moins de maladies que le reste du bidonville. Et vraiment, les maladies, des maladies inouïes, comme la teigne, il y a un moment donné où on en parle, elle en parle, Monique Hervault, toutes sortes de maladies évitables. Tout ça parce qu'il n'y avait pas l'eau courante, ni l'électricité.
Et d'autre part, une population très resserrée, donc voilà. Une contagion. La tuberculose, qui était quand même une maladie très répandue à l'époque, était également bien citée aussi.
Et souvent, les gens sont obligés de faire des séjours en sanatorium. Et il y a le cas d'un père de famille qui doit récupérer sa femme et des enfants qui étaient en sanatorium et qui se demande comment il va les faire dormir parce qu'il n'y a toujours pas la place. Dans la petite cabane.
Alors, sur ce moment-là, on peut relier avec le fait que l'administration et la police interdisaient la construction et l'extension des cabanes. Et ceci interfère avec ce que je disais, comme quoi c'était un habitat plausible, mais on ne pouvait pas l'améliorer, on ne pouvait pas l'étendre, les travaux étaient fortement surveillés par détachement d'un service de la préfecture de police qui s'appelait la Brigade Z.
Alors ça, elle a des pages d'anthologie sur cette brigade.
Oui, tout à fait. Les dernières fois que nous l'avons rencontrée, elle était encore très préoccupée. Elle avait envie de continuer à en parler de cette brigade.
Cette brigade a passé son temps à pourrir la vie des habitants de ce bidonville. Les gens étaient obligés d'avoir des astuces incroyables pour construire derrière les murs officiels. Et après, quand c'était construit, ils abattaient sournoisement la construction entre les deux pour gagner quelques centimètres sur et il n'était pas sûr que la brigade Z ne venait pas détruire la cabane tout entière. Il prenait des risques incommensurables pour avoir quelques centimètres carrés de plus.
Leur surnom c'était les Bleus. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient vêtus en bleu de chauffe, enfin en bleu de travail, et ils se promenaient toujours avec une masse. Et effectivement, à la masse, ils abattaient des éléments. Il y avait des petites tentatives de jardiner, ce qui pouvait apporter des tomates ou autres à la belle saison. Pareil, et puis quelques fleurs, pareil, c'était piétiné, etc.
Alors, du coup, les gens s'organisaient. Parce qu'il fallait éviter qu'il n'y ait personne dans la cabane lorsque la brigade Z venait. Donc il y avait toujours quelqu'un dans la cabane pour leur dire, ne cassez pas la porte, ne cassez pas tout, il y a quelqu'un, vous avez quelqu'un à qui vous adresser. Donc la brigade Z se comportait comme chez elle, partout. Ils venaient, ils rentraient, ils buvaient le café, ils prenaient ce qui les intéressait. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable leur comportement. Et ils relevaient de la préfecture.
Ah oui, c'est un service de la préfecture de police.
Donc c'était des fonctionnaires. Donc,
c'était des fonctionnaires, ils étaient bien mandatés
pour effectuer
ce travail.
Voilà.
Et donc
le nom de... On le dira plus tard peut-être, ou bien vous voulez le dire tout de suite?
C'était aussi en lien avec la SAT, c'était service d'assistance technique. Voilà. Il avait été recréé en 64, mais c'est un service renouvelé qui avait déjà des lettres de noblesse à l'ancienne. Auparavant, c'était le SAT-FMA, Service d'assistance technique aux Français musulmans d'Algérie, parce qu'à ce moment-là, ils étaient Français musulmans d'Algérie. Et c'est aussi pourquoi, parmi les grands mouvements de migration, les Algériens d'origine sont venus en nombre en France, c'est qu'ils étaient envoyés et recrutés, même dans les villages de Kabylie, passaient des recruteurs pour envoyer des paysans venir travailler en France. Et c'était pas seulement l'appel d'air, comme on dit de nos jours, supposé qu'il existe, mais c'était que vraiment ils avaient besoin de main d'œuvre, ils allaient la chercher, ils la faisaient venir, quitte après à la traiter comme ceci. Bon, alors donc les Français musulmans d'Algérie auparavant étaient administré par les SAS, section administrative spécialisée. On voit qu'en fait, à jouer avec toutes ces mêmes lettres, c'est quand même toujours la même chose. Et c'était déjà un service qui existait avant la Seconde Guerre mondiale.
Alors, on va venir au scandale du charbon pendant l'hiver. Hiver rigoureux, et d'un seul coup, il n'y a pas assez de charbon. Monique Hervault passe sa journée à appeler pour avoir du charbon pour le bidonville. On lui répond, non, on ne livre pas chez ces gens-là, on n'en a pas assez pour les Français, on ne va pas en donner pour les étrangers, et puis quoi encore. Ou, on veut bien, mais à un prix prohibitif. Donc c'est bien, j'ai bien... Donc du coup, dans la folie, à la folie, elle a vécu la période où pendant 8 jours, il n'y a pas eu de charbon. 8 jours d'affilée, il n'y avait pas de charbon pour se chauffer. En plein hiver.
Et quand il y avait du charbon, ça faisait chauffer des familles nombreuses dans un espace exigu, voilà. Avec des poêles qui devaient quand même pas mal émettre de dioxyde et autres. Enfin, c'est épouvantable.
Alors, il y a aussi le fait que les riverains faisaient des pétitions contre le bidonville. Donc, on ne peut pas dire que les riverains étaient contents d'avoir le bidonville à côté. Ou était solidaire, pas du tout.
Il y a une histoire ancienne. C'est une histoire ancienne, c'est-à-dire que du fait de la modernisation de Nanterre, les vieux immeubles en plâtre, etc. Selon le modèle de certains quartiers populaires de Paris, qui existaient là-bas, ont été peu à peu réquisitionnés et les habitants français en sont partis. Mais effectivement, j'ai pu consulter quelques dossiers aux archives de la préfecture et on voit sur Nanterre dans les années 50 déjà, avant même la guerre d'Algérie, des pétitions, il y a trop d'Algériens qui viennent ici, etc., etc. C'est pas sûr. Et donc ce sens de la délation et de la protestation, délatrice, est vraiment ancien et effectivement a continué. D'ailleurs, il est peut-être pas mort.
Alors, on va parler du bidonville l'été. Page 54, Monique Hervault explique que les bébés sont baignés continuellement pour ne pas mourir de déshydratation. Tellement l'habitat est indigne, il fait très très chaud en été et très très froid en hiver. Et les bébés risquent de mourir. Donc les mères, avec l'eau captée de façon péniblement, il sert à baigner les bébés pour éviter qu'ils ne meurent. Donc, vraiment, cet habitat indigne, elle dit d'ailleurs, les femmes étaient éreintées par l'attente d'un logement. Elles étaient fatiguées et vieillies avant l'âge. Et il y a un coût humain incroyable par rapport au bidonville de la folie.
Alors, je pense qu'on doit trouver sur Internet, sinon Monique Hervault avait réalisé énormément de photographies.
Oui.
Et elles sont à la BDIC, mais je pense qu'on doit en trouver beaucoup sur Internet maintenant. Elle donne une idée de ces conditions, et effectivement de ces portraits de personnes usées.
Jusqu'à la moelle. Alors, on va revenir aussi aux enfants. Les enfants, c'est quelque chose que Monique Hervault a documenté particulièrement, et notamment les associations qui ont essayé de détourner les enfants du bidonville. C'est-à-dire qu'il y avait des associations, sous prétexte caritatif, qui obtenaient que les enfants soient invités dans les familles à l'étranger ou ailleurs dans la France, pour avoir des vacances et pour... avoir des vacances hors du bidonville. Mais il faut voir ce que les enfants revenaient du bidonville ensuite. Ayant goûté à autre chose que le bidonville, les enfants ne supportaient plus le bidonville. Et en plus, on avait tenté parfois de les convertir à une autre religion que celle de leurs parents. Enfin, ça donnait des drames, mais pas possible. Des enfants qui
Alors,
ne voulaient...
Laquelle, à ton avis, laquelle?
Oh, j'en sais rien. Ah bon? C'est le paganisme.
Et donc, Monique Hervault raconte l'épisode d'un enfant que le père a dû lui donner la ceinture, c'est-à-dire le taper à la ceinture pour le faire rentrer dans le rang, parce qu'il n'était plus tenable, entre guillemets. Je veux dire, l'enfant rejetait tout ce qu'avait fait sa famille et son éducation jusqu'à ce qu'on, à son retour de vacances. Donc, Jean-Louis.
Alors, sans aller jusqu'à ses extrémités, il y a un choc socioculturel évident
oui.
entre les traditions que la linguistique et les mœurs, les habitudes, le mode de fête, etc., des habitants, et d'autre part, la langue que les enfants entendaient à l'école. Alors, tantôt l'intégrant et tantôt, au contraire, s'en défendant. Et, alors, il y avait aussi, les enfants éprouvaient de la honte à accompagner leur mère qui ne parlait pas un mot de français. Et sur cette question-là, d'ailleurs, Monique Hervault témoigne que non, elle ne voulait pas. Elle voulait perpétuer leur culture. Et on dit tradition, en fait, on peut dire aussi culture. Mm-hmm. La tradition, ça a l'air seulement le passé, alors que c'est ce qu'on transmet. Et ce qu'on transmet, c'est une culture et c'est vers l'avenir. Donc, cet aspect-là, le refus de s'intégrer est intéressant parce que de nos jours encore, on admet l'immigré que s'il pastiche, hein, si l'on peut dire, le français moyen. Et sinon, il n'a pas le droit. D'ailleurs, il devra bientôt repartir s'il ne s'est pas identifié. Et alors, à ce moment-là, à cette époque-là, la communauté du bidonville conservait sa langue, conservait ses fêtes, ses modes de religieux, bien sûr, ses coutumes culinaires, et n'avait pas envie de s'identifier, d'imiter, etc. Rencontrer peut-être, mais la rencontre, là, elle n'était pas possible, puisqu'on les rejetait.
Ouais.
On les circonscrivait. Ségrégation.
Oui. Et il y a même une anecdote. Il y a une anecdote parlante, c'est la séparation des mamans à la sécurité sociale. Mmh. Avant, les mamans faisaient la queue, qu'elles soient du bidonville ou pas, à la sécurité sociale, il n'y avait pas de problème. Un beau jour, on apprend qu'il y a un jour pour les mamans du bidonville et un jour pour les Françaises. Donc c'est... Mais il n'y a pas que ça. L'administration s'est ingéniée à distiller son racisme jusqu'à tolérer que des employés insultent des prestataires qui viennent pour récupérer leurs allocations ou
le remboursement de certains médicaments. Je
tout à fait.
Oui, parce en leur demandant. On se faire rembourser.
Voilà, en leur demandant des explications.
On se fait rembourser à un guichet. Alors que maintenant, tout est.
Dématérialisé.
Fait sur. Et dématérialisé. Donc, il n'y a plus de racisme puisque ça bug pour tout le monde.
Mais ce passage évoque cela. Une Algérienne se présente à un guichet de la Poste pour percevoir le montant d'un mandat. L'employé, apostrophant les Français présents, l'insulte. Pourquoi la sécurité sociale, elle te donne de l'argent? Pourquoi elle donne toujours aux Arabes? Hors du bidonville, poursuit Monique Hervault, ils ressentent la haine. Les habitants du bidonville ressentent la haine. Ils sont de trop. Il n'y a pas besoin d'être marqué, comme on numérote moutons et vaches aux oreilles, ou d'une étoile jaune sur le plastron, pour être en permanence stigmatisé dès que vous franchissez votre bidonville. Tout dit que vous faites partie des gens pas fréquentables. Votre démarche, la petite tache de boue aperçue sur vos souliers, vos coups fins, pas de chez nous, votre fierté à vous assumer malgré les difficultés, vos vêtements, vos tatouages, les paumes de vos mains qui laissent paraître la couleur du henné, vos barbes, vos voiles. Les Français vous prennent pour les déchets de l'humanité, vous ne serez jamais des leurs. Bon, ceci donc, donne un exemple des notes prises au jour le jour par Monique Hervault, vivant parmi ses habitants. Quelque chose qu'elle nous disait aussi, elle trouvait que dans la réputation assez favorable dont elle bénéficiait, entre guillemets, il y avait un malentendu, c'est que quand on disait « Monique Hervault a vécu au bidonville la folie », oh mon Dieu, quelle héroïne, qu'est-ce qu'elle est courageuse, etc. Très certainement très courageuse, et aussi vis-à-vis de l'administration et de la police. Mais ce qui est pour elle, était le sens, c'était que non, c'était la condition, les modes de vie et les conditions vécues par les habitants. Elle, c'était secondaire. Et ça, c'est important.
Elle a été leur écrivain public, elle les a aidés, et elle a pris les notes. Et moi, je dirais que on dit qu'elle est écrivain, moi, je dirais qu'elle a eu un regard d'anthropologue.
Tout à fait, oui. Bien sûr, ça concerne.
Mais vraiment, je veux dire, ça et les autres anthropologues, je ne vois pas la différence. Et la façon dont tu as présenté ces notes, ça accentue ça. C'est formidable.
Je crois que c'est un choix vraiment fidèle. Je n'ai rien ajouté, donc rien ne vient de moi.
Mais c'est formidable. C'est vraiment formidable. Ça m'a saisi. Ce livre m'a saisi. Et tout de suite, je t'ai envoyé un mail auquel tu as eu la gentillesse de répondre rapidement. Et on a convenu de venir à l'antenne pour en parler. Ce livre est à lire absolument. Après les émeutes dues à la mort du jeune Naël, je veux dire, on ne peut pas comprendre, et on va l'expliquer en troisième partie, on ne peut pas comprendre le climat qui s'est instauré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, si on ne lit pas Monique Hervault, si on ne lit pas tous ces livres, et si on ne comprend pas la mentalité de l'administration et la façon dont elle a pourri, et quand je dis pourri, c'est un mot faible, la vie des habitants du bidonville de la Folie et de tous les bidonvilles, en fait. Parce que c'est tous les bidonvilles qui ont vécu ça.
Là, vous parliez de la Folie, c'était un peu ailleurs, etc. Dans les années 50 et durant la guerre d'Algérie, il y avait ce que Monique Hervault appelait des micro-bidonvilles. Il y en avait un peu partout. Et pourquoi ? C'est parce que les immeubles que j'évoquais, à côté, il y avait un terre-plein, à côté, un petit terrain vague, et là-dessus, ils se construisaient des cabanes. Et c'était vraiment éparpillé aussi, quoi.
Des mini bidonvilles,
micro bidonvilles.
Oui. D'accord.
Voilà. Bien, on va faire une pause, Jean-Louis. Tu nous toujours de Slimane. Donc Jean-Michel, s'il te plaît.
الجزائر تتهول كل وجبة لسي عول قبالة غهوري زول للامي ضبرون للامي ضبرون الجزائر تتهول كل وجبة لسي عول قبالة غهوري زول للامي ضبرون للامي ضبرون تترقي متى حاجة استيراوين ونسعانو نزد حنين الهم وولاج الهم المرايه فوق الخضر
أميل مزين أم مغايق باتخ ممدو حضر رسفر حضر باجر رسفر حضر باجر لمرايف بغل خبار أميل مزين أم مغايق باتخ ممدو حضر رسفر حضر باجر رسفر حضر باجر لفرق دي مضي مازال لحزن نمي رمزان تلا وينك الست المالك وجل تهون العيب المرة سمغلين بلا الهضرة وريبا لحزن نغتا مغرى قمضة تدق قرداش قمضة تدق قرداش تهون العيب المرة سمغلين بلا الهضرة وريبا لحزن نغتا مغرى قمضة تدق قرداش قمضة تدق قرداش مزيز وقلت مزلاين بلان يبد الملاين أنو حسب سنغ عامين دو غالي دولاج دو غالي دولاج سرو للهم صار وسوق درواش وشكر زو تاكسي يكرو غبار اللامي زو بلانج اللامي زو بلانج سرو للهم صار وسوق درواش وشكر زو تاكسي يكرو غبار اللامي زو بلانج اللامي زو بلانج ويسعى الحقن الركبة ويسوه الاسطلابة فراغ تموت العجبة ذو غلد السوحاج ذو غلد السوحاج يذوق ملا ركلام البابور يسعين الدام الزيت تاسلها فوق الدام مغرد قريم جاجة مغرد قريم جاجة لم يذوق ملا ركلام البابور يسعين الدام الزيت تاسلها فوق الدام مغرد قريم جاجة مغرد قريم جاجة لبيوم لا تتعبي البابور يتشرى سيدي رب فرجد في العمان نبي نتكفل نجي نبلا جاد كفل نجي نبلا
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie avec Jean-Louis Mohan. Jean-Louis, alors nous allons revenir sur au bidonville de la folie, sur tout ce qui est trafic pour acquérir un appartement et quitter la folie justement. Ça, Monique Herbeau, elle le documente bien. L'administration... On sait dans le bidonville qui il faut payer, combien il faut payer pour avoir un appartement. En fait, pour avoir ce qu'on appelle la clé.
Alors, la clé, c'est le pot de vin, comme il arrivait, peut-être encore, je ne sais pas, mais oui, en tout cas, c'était réputé quand j'étais jeune, par exemple. Si on voulait une location, alors il y avait ce qui était écrit, et puis il y avait le pot de vin au titre de tel ou tel travaux supposés, etc. Alors, c'était beaucoup plus institutionnalisé pour les immigrés des bidonvilles, où, alors, la clé, c'était vraiment le pot de vin au... alors, à a priori d'abord aux propriétaires, mais il faut savoir que les propriétaires privés, d'une part, n'étaient pas du tout désireux de loger des Algériens et, ou d'autres immigrés. Et ensuite, durant la guerre d'Algérie, voire après, s'était fait conseiller de le refuser par les services administratifs et par la police. Alors ça, c'est quelque chose qui existe dans les années 50, fin des années 50, et dont la tradition a dû rester assez longtemps. Alors ensuite, le système administratif que mentionne Monique Hervaux, que lui ont évoqué des habitants, c'est que dans le livret de famille, au moment d'effectuer une demande ou une démarche, eh bien, on glisse quelques billets pour les services sociaux de l'État français ou des municipalités. La politique des municipalités, qu'elle soit à l'époque de droite ou de gauche, puisque Nanterre était un peu à cheval, bon, Nanterre était de municipalité communiste, mais à côté, il y avait une municipalité libérale. Il se renvoyait la
pomme de terre chaude.
Oui, voilà. Et la responsabilité de l'absence d'assistance totale, et puis le fait que ces bidonvilles étaient là comme une tâche quand même honteuse pour les municipalités, et c'était vraiment considéré ainsi, y compris par la municipalité de Nanterre. Et Monique Hervaux note également un certain nombre de signes manifestes de mépris, voire de circonscription pour délimiter, pour empêcher de s'étendre, etc., de la part de la municipalité. Elle note que, tandis que les poubelles ne sont absolument jamais ramassées à la proximité du bidonville, elle note qu'un petit rond-point sur la route est soigneusement nettoyé, on en retire les déchets, on arrose les fleurs avec de l'eau qu'on gaspille, à côté des gamins qui font la queue à l'unique fontaine, etc. Et à ce moment-là, ça montre, c'est pas seulement ah mince, ils sont là pauvres, et puis les pauvres municipaux que nous sommes, nous ne pouvons rien faire. C'est un acte ségrégatif, quoi.
C'est un mépris. C'est un mépris spatial. Voilà, ouais. Un mépris spatial. Alors, comment expliquer que encore aujourd'hui, cette histoire est si peu documentée, à part par toi et par Monique Hervaux, si peu enseignée, si peu connue, si peu reconnue? Pourquoi? C'est la question qu'on avait décidé de débattre dans cette dernière partie. Et j'espère que j'aurai je donnerai la parole à tout le monde. Alors, Jean-Louis, pourquoi ?
Comment déjà ? Je pense que la population même des bidonvilles, les travailleurs immigrés en général, ont subi toutes ces atteintes et toutes ces longues expériences avec un sentiment de refoulement, de renfermement, sinon de honte. Quand on est maltraité, on peut éprouver de la honte, alors que vivre ainsi suppose au contraire une lutte et une dignité considérable. Ça, ce serait le premier point. Ça se rattache aussi aux épreuves historiques, puisque de la guerre, beaucoup de gens qui ont été éprouvés ne parlent pas ensuite.
Oui. Hein, voilà.
D'abord parce qu'ils ne sont pas écoutés, ou ils ne sont pas crus, et puis eux-mêmes n'ont pas le mouvement. Ce qu'on refoule, on ne le, par définition, on ne le libère pas, donc on ne le communique pas. Voilà. Il y a ce point du point de vue des personnes. Une autre conséquence, c'est que cette situation à mi-chemin entre le monde moderne, fonctionnarisé, et les traditions communautaires, rurales, très souvent, des immigrés se heurtent. Et ensuite, il ne se reproduit plus. Les descendants, eux, vivent ici. Et ils peuvent avoir honte ou distance, leurs parents n'en parlent pas, eux-mêmes, ils s'identifient au moins à leur propre situation à eux, et ils s'occupent plus tellement de ce que les générations précédentes ont vécu. J'avais entrevu un documentaire journalistique, j'ai passé un peu sur internet par hasard en vidéo. C'était une journaliste qui interrogeait des gens d'une trentaine d'années qui, enfants, avaient vécu au bidonville de la folie. Et alors elle demandait alors alors, qu'est-ce que ça faisait d'y vivre ? Question un peu absente, mais eh bien, le jeune homme était décontenancé. Il aurait dû dire, oui, c'est pas brillant, mais il pouvait, tout ce qu'il avait vécu lui-même, il ne pouvait pas en parler. Et c'était un enfant à l'époque. Bon. Alors, ça, c'est du point de vue des habitants. Du point de vue du contexte, ben, bon, on est dans une société censée garantir état-providence, tout le nécessaire à tout le monde, mais on ne va pas parler de ceux à qui c'est refusé. Bon, voilà. On ne va pas parler non plus de comment on le refuse, oui. Alors qu'on aurait pu laisser les gens s'étendre, on aurait pu ramasser les poubelles comme on le fait partout, on aurait pu ouvrir un deuxième point d'eau.
Oui, c'est ce qu'ils réclamaient.
Voilà.
Un peu d'électricité.
Mais on ne l'a pas fait, on n'a pas voulu le faire, et non. Même délibérément, on ne l'a pas fait.
Voilà. Et les assistantes sociales qui auraient pu aider étaient complices de cet état de fait. Elles le montrent bien, Monique Herbeau,
oui,
dans le.
Oui, oui.
Alors qu'elles étaient protégées par le secret professionnel. Mmh. Elles laissaient faire.
Mmh. Alors, telle hésite à s'asseoir sur une chaise dans une cabane de peur de se salir. Telle autre accepte que la police la caravane où elle consulte, mais c'est tout ouvert, ce qui fait que les gens qui viennent le consulter, autant dire qu'ils consultent la police. Enfin, c'est un système extrêmement étrange. Et puis enfin, il y a la corruption pure et simple, ces billets. Un autre témoignage de Monique Herbeau, c'est pour obtenir un logement dans une cité de transit, d'apporter des bouteilles de champagne qui sont mises dans le coffre de la voiture du responsable de la...
je vais retrouver son nom.
Montaner.
Montaner, oui, tout à fait.
Il était responsable de la Brigade Z.
Oui.
Et Montaner, c'est un personnage historique qui a eu beaucoup de décorations françaises et dont on dira volontiers que si on en dit du mal, on insulte la France. Et il a été, durant la guerre d'Algérie, le capitaine responsable de la force de police auxiliaire, autrement dit les harkis de Paris, ce qu'on appelait ainsi, et qui a un rôle considérable entre 59-62, à la fin de la guerre d'Algérie. De ses membres mitraillaient au pont vers Paris des manifestants venant de Nanterre le 17 octobre.
Ouais.
C'est documenté, hein, tout à fait. Voilà. Bien d'autres faits lui sont imputés. Ils sont imputés à la brigade qu'il dirigeait alors. Alors, ensuite, eh bien, il a continué. Il est devenu spécialiste du traitement des Algériens.
Il a continué à
coiffer la police et l'administration chargée de contenir les habitants des bidonvilles et notamment de Nanterre. Alors, sur ce plan-là, il y a aussi une... un côté représailles tardives, puisque la France a perdu la guerre d'Algérie, malgré tout ce qu'elle a commis ici, les Algériens sont restés, avaient manifesté, etc. Un côté représailles contre la population qui les avait combattus et qui, en somme, quoi qu'il lui soit arrivé, avait emporté ce pour quoi il pensait se battre.
François ?
Alors, j'ai envie de te demander, le bidonville de Nanterre, il a duré très longtemps après la paix de 62.
Il est démantelé en 72.
Parce que je pense qu'il a duré plus longtemps que ça d'une façon larvée.
Le
fameux incendie du bidonville, c'est quelle année ?
Le ratiboisage, c'est...
71.
Il y a eu un incendie mémorable qui, de notoriété, avait été organisé par les pouvoirs publics.
Ah oui, ça là.
Elle n'en parle pas.
Non,
d'accord.
Non.
D'accord. Ok.
Je pense que Monique Herbeau ne disait pas tout.
Elle se méfiait, et à juste titre,
oui,
parce qu'elle était.
Elle
était soumise, comme la population du bidonville, au secret. il y a des choses qui ne devaient pas sortir parce qu'elle mettait en danger des gens, les gens dont elle s'occupait.
Elle est disparue en,
le 20 mars, quelle date ? Le 20 mars 2023.
C'est tout récent. Oui, ouais. depuis, y a quand même pas mal de gens qui se sont exprimés sur la guerre d'Algérie et sur le traitement fait aux émigrés, quand même pas charrier. Un gars comme Fanon, il n'a pas du tout pris de gants pour le faire. Hein.
Oui.
Bon, donc ce que je comprends pas, mais c'est pas du tout contre l'auteur du livre. Hein. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle ne crimine pas les vrais responsables, c'est-à-dire les pouvoirs publics.
Elle les incrimine. Ah, tu n'as pas lu le livre. Elle les incrimine vraiment. Quand je dis qu'elle dénonce la corruption, elle dénonce le laisser faire des assistantes sociales, la brigade Z, elle dénonce tout ça. Elle a des notes au jour le jour et ils ont été bien présentés par Jean-Louis. Non, tout est impeccable. Ça donne le frisson. Ils ont vraiment pourri la vie des gens.
Enfin, ça donne le frisson. Moi, je crois qu'on en a une petite idée avec ce qui s'est passé à Calais, pour ne parler que de ça. Je veux dire.
C'est-à-dire, maintenant, ils essaient de prévenir la constitution des bidonvilles, bien sûr. Alors, d'ailleurs,
La pénibilité était la même, exactement, que celle que tu décris.
Dans Paris, on peut dire qu'il y a des
bidonvilles. Ou les gens qui campent sur le périph, par exemple.
Oui, mais des bidonvilles
disséminés. Les conditions d'hygiène sont très proches, je pense, de celles que vous rencontrez.
Oui, sauf que c'est beaucoup. Et ils font en sorte que ça ne s'étende pas, que ça ne s'incruste pas. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis c'est du bidonville disséminé. Voilà. Alors, la différence aussi, c'est que les habitants de la Folie travaillaient. Bon, je n'ai rien contre les gens qui ne travaillent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils ne trouvent pas. Mais là, en l'occurrence, c'était des sacrés travailleurs et sous-payés, mais qui pouvaient quand même se louer, accéder à une location, etc. Et en fait, ils dépensaient une grande part de leur argent à
envoyer et à soutenir la famille au pays.
Oui, d'une part, et d'autre part, à racheter tous les 15 jours ce que la pluie avait laminé, les habits et le reste. Mmh. Quoi. Mmh.
Kentong, est-ce que tu as une remarque à faire à notre invité ?
Alors moi je suis, enfin ça m'a beaucoup ému là tous les anecdotes qui ont été racontées, puis enfin c'est assez hallucinant tout ce qu'on entend. Je sais pas, enfin ça, je comprends pas que on puisse pas avoir la rage quand on a connaissance de tout ce genre de choses. Alors, en plus, enfin c'est presque une petite couteau dans tout un ensemble de choses. Ça dépasse vraiment l'entendement. Et puis, je comprends pas comment peut y avoir des gens qui répètent des politicards nauséabonds à dire l'État français n'est pas raciste, ce genre de choses. Enfin, là, les faits, enfin, c'est complètement évident, quoi. Et voilà, enfin.
C'est-à-dire que très certainement, tu évoquais le drame récent là, de juin, très certainement, c'est incrusté dans la société française d'abord et dans les corps de l'État des tendances ségrégationnistes, racistes, positivement racistes, enfin positivement, c'est-à-dire explicitement, fièrement, de manière assumée,
sans complexe.
Oui, voilà. Et d'autant moins que dorénavant, comme c'est interdit, y a bien envie de se défouler à l'occasion. Bon, quand on peut, voilà. Bon, on peut faire aussi d'autres hypothèses, c'est-à-dire que c'est pas gênant s'il y a des bavures, parce que à la limite, s'ils sortent, on leur retapera dessus encore plus. Le 17 octobre, la police, il y a des témoignages de policiers disant « Mais là, on est bien contents, ils sont sortis.
Ouais. »
Eh bien, on peut penser que cette logique... il en reste quelque chose. Hein. Je ne dis pas que tous les policiers sont racistes. Je n'ai jamais croisé des non-racistes. Mais je ne les fréquente pas beaucoup, mais à la suite d'une interpellation. Et voilà. Alors, oui, c'est important. Et il y a une tradition culturelle, si l'on ose dire. Hein. Un arabe, ça nage pas. Ça a été redit il n'y a pas longtemps. Hein.
Mmh. Ouais. Feriel, as-tu un commentaire ou une question.
J'ai une petite question en tête. C'est par rapport justement à la Brigade Z, c'est ça? C'est-à-dire que ils avaient comme mission de venir démanteler tout ce qui était construit, ou c'était, on va dire, entre guillemets, du implicite?
Entre guillemets.
Entre implicite, c'est-à-dire que c'était un peu à leur gré aussi, ou...
Bien, je pense que leur ordre de mission, c'était d'abord surveiller...
Qu'est-ce que c'était la mission, déjà?
Oui, je pense que c'était d'abord surveiller, empêcher les extensions, mmh. et donc je pense que nulle part il était écrit « vous pouvez écraser tout », mais on leur passait des masses pour écraser tout.
Ok, oui.
Ouais. Jean-Louis, oui. Alors je rappelle l'adresse du site internet, c'est Resouvenance, resouvenances.fr. Donc ton catalogue est en ligne. On peut commander Au bout d'Enville de la folie, de Monique Hervault, note choisie et présentation par Jean-Louis Wand, Paul. Il coûte 18 euros. Où on peut le commander à Publico, 145 rue Amelot, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Nous avons des exemplaires à disposition de ceux qui seraient intéressés pour lire cet ouvrage magnifique. Et je voudrais qu'on revienne sur la transmission. Est-ce que ce ne serait pas lui rendre... parce que tu as évoqué un livre qui a été retranscrit en arabe, traduit en arabe. Est-ce que le meilleur service qu'on pourrait rendre à Monique Hervault, ce ne serait pas que ce livre, au bout d'un livre de la folie, soit transcrit en arabe?
En ce qui nous concerne, tout à fait ouvert. Le livre transcrit, c'est le témoignage, attendez, le titre français, c'est celui qui a été édité par... Nanterre en guerre d'Algérie.
Voilà.
Enfin, il y a eu deux éditions, une en...
En
2001, au Seuil, et puis ça a été repris par Actes Sud, mais je crois que c'est épuisé maintenant, en 2012. Souvent, on constate que les attentions sont au moment des anniversaires de Sénat.
Voilà. Oui.
Voilà. 2001, 61, 2012, 50 ans d'indépendance. Maintenant, dans 10 ans, on en reparlera peut-être. Et
d'accord.
En attendant, on n'en parle plus.
Non, on en parle. Tu es sur Radio Libertaire, dans l'émission Pas de quartier, du groupe Louise Michel.
En général.
Donc, on lance un appel. Si quelqu'un veut le traduire en arabe, il peut te contacter sur le site de Resouvenance, et ce serait rendre hommage à cette grande dame qui a fait un travail d'anthropologie, et je pèse mes mots, que de traduire et de le transmettre au plus grand nombre.
En tout cas, nous, on est tout à fait ouverts et à aider dans la mesure de nos moyens, mais on ne connaît pas l'arabe.
Voilà. Bien. Donc, François, un dernier mot de conclusion?
Ben non, je ne sais pas quoi dire.
D'accord.
Je me rappelle plus bien la question que tu nous avais posée tout à l'heure, Mariama, en disant « J'aimerais que vous puissiez en débattre. » Parce que la cause de ça, à part de faire une moralité, parce que bien sûr que nous, les anarchistes, on est le sel de la terre, hein, enfin, on n'est que du miel. Mais les autres, à part nous, franchement, ils se conduisent dès que c'est possible, comme des porcs. Enfin, il y en a toujours beaucoup pour le faire. Hein. Après
oui.
avoir dénoncé les Juifs, après avoir blackouté le problème des camps, les mêmes, hein, je pense que c'est les mêmes, recommencent avec les Algériens. Et à Calais, je pense que c'était pas différent. Faut arrêter de refuser d'appeler un chat et un salaud.
Oui.
Sans remettre en cause toute l'espèce humaine, mais enfin un grand pourcentage, quoi. Voilà.
C'est difficile d'établir, d'estimer exactement la proportion, puis après on en viendrait à faire du tri.
Ils sont tous de la race humaine, les salauds, là. Donc, il n'y a pas de tri. Hein.
C'est que il y a aussi une sorte de passivité qui laisse aller sans trop se rendre compte de tout ce qu'elle laisse aller. Et ça, je pense que c'est majoritaire clairement le cas. Ensuite, laissez aller, pour peu que ça vous vienne, que tout à coup on le rencontre, on ne peut pas l'éluder, ah, ça nous gêne. Donc, on
a envie. Enfin, l'auteur, l'auteur du livre a eu le courage, elle, de le dénoncer. Parce que si on demande pas à tout le monde de s'armer et de tirer sur les cartes de CRS, dénoncer, je pense que ça, n'importe qui peut le faire. Voilà, je ne sais pas si c'était répondre
alors,
à ta
cas,
question.
Pour répondre, non. Concernant les corruptions, une note en passant, mais une allusion. Monique Hervault dit qu'elle avait constaté des choses en se promenant dans le bidonville avec Claude Bourdet pour essayer de le faire, faire connaître ces faits de corruption administrative. Et qu'à ce moment-là, ils ont croisé des membres qui l'ont regardé, les ont regardés d'un air tellement aimable que éprouvé quelque peur. Quoi. Mmh. Et il y a eu un autre moment où elle a été plus ou moins prise avec des habitants, mise à genoux, bousculée, etc., etc. Bon, c'était une petite frêle dame. Hein, donc, quand je disais, elle ne disait pas tout, elle ne disait pas tout aussi pour ne pas porter atteinte à l'intégrité des habitants. Mmh. Hein, on sait bien que quand on est victime de quelque chose, certaines choses, on n'a pas envie que ça se sache. Ouais. Et surtout dans ces sociétés.
Ouais.
Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin.
C'est le mot de la fin, Jean-Paul.
Merci Jean-Louis. Beaucoup à vous. Merci beaucoup.
Jean-Louis, pardon. Excusez-moi. Jean-Louis. Je suis tellement émue que j'écorche ton prénom. Jean-Louis. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre du livre, Au bidonville de la folie, de Monique Hervault, H-E-R-V-O. Sa fiche Wikipédia est très bien faite. C'est rare qu'on ait une fiche aussi bien faite sur une personne trop tôt disparue. Note choisie et présentation par Jean-Louis Mohan-Paul. Ressouvenance, 18 euros. Disponible à Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, Fille du Calvaire, République.
Donc, dans les pages littéraires du diplôme de ce mois-ci, il y a un encart sur le livre de Monique Hervault.
Tant mieux. Alors, merci Kendong, merci Feriel, merci François, merci Jean-Paul.
Merci à vous. Donc.
Merci à Jean-Michel pour sa technique impeccable. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calissi, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais charmante, on voit le juge, tu juges, c'est qui mon juge, t'as le gamin ribin. J'ai des blousis, c'est mon voisin, il a rien au zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Pour amour, ma fille bouger, sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Au fond du jardin, on chassait le léopard, les dinosaures, les lézards. La main dans la main. Thank you.
Bonsoir, Radio Libertaire 89.4, et nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Alors, ce soir, nous recevons la sociologue Fabienne Messica pour son livre « Les pornographes du malheur » paru aux éditions Rue de Seine. Dans ce court ouvrage, Fabienne Messica analyse les contradictions perverses dans lesquelles nous plonge le capitalisme numérisé. Exigence du bonheur, vue comme une compétence individuelle, fascination morbide pour le malheur spectaculaire, recherche illusoire de réparation. Alors Fabienne, d'abord, est-ce que tu peux nous dire, te présenter brièvement ?
Oui, bah je, donc moi effectivement je suis sociologue, j'ai été journaliste quand j'étais plus jeune et j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration, sur l'éducation, sur plein de sujets. J'ai écrit sur les sujets qui me préoccupaient, donc j'ai écrit sur l'humanitaire, j'ai fait une critique.